BFM Business. Toute l'info éco en 60 minutes, l'heure H.
Les bienvenus, c'est l'heure H jusqu'à 13h. Dans quelques instants, on va faire un point sur toute l'actualité économique du jour avec Vallourec, star des marchés. Aujourd'hui, le fabricant de tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière remonte la pente, plus 14% du chiffre d'affaires à 2,1 milliards d'euros au premier semestre. Alors, est-ce que le pire de la crise est passé? On sera avec Philippe Crouzet, président du directoire de Vallourec à 12h10. Ça va beaucoup moins bien en revanche pour Nissan. Le constructeur supprime 12 500 emplois. Son bénéfice net plonge de 95% au premier trimestre. Une tendance à la baisse qui ne concerne pas tous les acteurs du secteur. Alors comment expliquer ces disparités? Je serai avec Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire CTLM à 12h40. Et puis on suit évidemment l'évolution des marchés sur BFM Business. Le CAC qui est à la mi-journée en hausse de 0,59% à 5 638 points. Et tout de suite, on fait le point, c'est le journal avec Thomas Asportas. Bonjour,
bonjour
Thomas.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Et c'est bien sûr le rendez-vous attendu aujourd'hui par les investisseurs et les marchés. La réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera tout à l'heure, donc à 13h45. Et vous pourrez suivre en direct sur BFM Business les annonces de Mario Draghi. La Banque Centrale Européenne qui devrait préparer les marchés à un nouvel assouplissement de sa politique monétaire dès la rentrée. Mais elle pourrait aussi frapper plus fort et annoncer dès aujourd'hui une baisse de ses taux directeurs. Ce n'est toutefois pas le cas le plus probable selon Olivier Dubs, exécutif directeur chez JP Morgan. Il était ce matin dans Intégral Placement.
Pour nous, cet après-midi, en effet, les marchés ont des grosses attentes sur une communication très accommodante. Et en effet, on pourra avoir, il y a pour nous deux scénarios qui ont des probabilités à peu près équivalentes entre une communication sur un assouplissement monétaire dès le mois de septembre, pourquoi pas, et puis des baisses de taux. Mais par rapport à la dernière fois où la Banque Centrale Européenne avait commencé son programme d'assouplissement monétaire, le monde a beaucoup changé. Mars 2015 et aujourd'hui, c'est vraiment deux contextes très très différents. Ça va être intéressant de voir comment Mario Draghi prépare le terrain, en effet, pour l'arrivée de Christine Lagarde. Mais les éléments de communication, des éléments de communication forts sont attendus cet après-midi. Ça, c'est net.
Pour agir avant la Fed aussi, parce qu'il y a cette course de vitesse entre les banques centrales, alors qu'ils agissent de concert. Voilà, on l'a bien compris depuis la crise Lehman, mais enfin quand même, la Fed doit annoncer normalement le 31 juillet une première baisse de taux de 25 points de base, qui aurait, si la BCE n'agit pas sur ses propres taux, qui aurait un impact sur les devises. Donc la BCE va devoir sans doute aussi courir derrière la Fed ou même anticiper la Fed et dès aujourd'hui annoncer quelque chose, puisque la Fed le fera elle dans quoi, une semaine. Donc autant prendre les devants et le faire dès aujourd'hui, annoncer une baisse de taux dès aujourd'hui, c'est possible pour la BCE?
Pour nous, le scénario le plus probable, c'est septembre. C'est-à-dire qu'il y aura en effet une préparation entre guillemets aux investisseurs pour une première baisse de taux en septembre. Vous avez raison, les banques centrales vont avoir besoin désormais de délivrer sur des attentes d'accommodation assez fortes.
Olivier Dubs, directeur exécutif chez JP Morgan, et verdict donc tout à l'heure en direct à 13h45 sur BFM Business. On va aussi bien sûr surveiller de près Boris Johnson aujourd'hui, puisque le tout nouveau Premier ministre britannique réunit pour la première fois son nouveau gouvernement. Un cabinet qui, vous l'avez vu hier, met dehors l'essentiel de l'équipe de Theresa May et qui accueille à la place de nombreux ministres partisans du Brexit. Le Brexit qui aura lieu le 31 octobre, quoi qu'il arrive, a répété hier Boris Johnson. En Espagne, en revanche, le Premier ministre sortant Pedro Sanchez cherche toujours une majorité à l'Assemblée pour être conduit dans ses fonctions. Les députés espagnols sont à nouveau soumis cet après-midi à un vote de confiance après l'échec d'un premier vote mardi. Et si la procédure échoue à nouveau aujourd'hui, eh bien les Espagnols pourraient se diriger vers de nouvelles élections législatives en novembre. Retour en France, et les derniers chiffres de Pôle emploi sont tombés il y a quelques minutes et le nombre de demandeurs d'emploi au deuxième trimestre a reculé de 0,4%. On est en ligne avec Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Bonjour Éric Heyer.
Bonjour.
Alors que vous inspire ce chiffre, Éric Heyer, moins 0,4%, est-ce que c'est le chiffre que vous attendiez à l'OFCE?
Alors c'est un chiffre en termes de signe, oui, on s'attendait à une baisse. On s'attendait à une baisse un peu plus significative, puisqu'il faut rappeler, il y a eu énormément de création d'emplois. Aujourd'hui, l'économie française crée en rythme annuel aux alentours de 220 000 emplois, et donc normalement, ça aurait dû permettre une baisse un peu plus forte aux alentours de 25 000 et donc il n'y a eu que 14 000, donc c'est un peu décevant de ce point de vue-là, mais On peut noter que l'on est quand même sur une tendance baissière pas suffisamment forte pour arriver à l'objectif du gouvernement du plein emploi à l'horizon 2025, mais à peu près toutes les catégories en profitent. Ça, c'est ça la bonne nouvelle, sauf les jeunes de hommes de moins de 25 ans. Mais sinon, c'est tout de même un signal positif, enfin, qui confirme que l'économie française améliore son marché du travail depuis un certain nombre de trimestres.
Alors, vous dites la tendance est baissière, justement, trimestre après trimestre, mais la pente se ralentit quand même, Erika, hier. Hein. On avait moins 1,1 au dernier trimestre 2018, moins 0,7 au premier trimestre, et là, moins 0,4 au deuxième trimestre. Qu'est-ce que ça veut dire quand même que là, on est en train à nouveau de buter sur un plafond ou un plancher ?
Oh non, il est trop tôt pour dire ce genre d'information, puisque vous voyez que si je regarde maintenant les créations d'emplois, on n'a jamais créé autant d'emplois qu'au premier trimestre. On n'a pas encore le chiffre du deuxième trimestre, mais le premier trimestre 2019, on a eu 93 000 créations d'emplois. Donc vous voyez que normalement, avec 93 000 sur un seul trimestre, c'était un signal très positif. Au contraire, on était sur une économie qui n'avait jamais créé autant d'emplois sur un seul trimestre depuis la crise économique. Donc c'était plutôt un bon signal. Il faut quand même toujours se méfier de ces évolutions-là. Ce qui est certain, c'est que globalement, l'économie mondiale, mais également européenne et française, est en train de ralentir petit à petit. Et donc ce ralentissement de l'activité va à un moment donné se traduire par effectivement des créations d'emplois un peu moins fortes et donc une baisse du chômage un peu moins élevée également. On n'en est pas encore complètement là de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on devrait continuer sur cette tendance baissière, pas très forte, hein, ça je suis d'accord avec vous. Et donc du coup la question qu'on doit se poser, c'est comment le gouvernement va réussir à maintenir des créations d'emplois dans un contexte économique qui est de moins en moins porteur, s'il veut arriver à son objectif de 7% de chômage à la fin du quinquennat et 5% en 2025.
Merci beaucoup, Eric Ayard, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Et puis pour terminer ce journal, évidemment, c'est la grosse actualité de la mi-journée dans le secteur des entreprises. Antoine Larue-Gaudry, bonjour. Antoine, alors c'était attendu depuis des semaines, on en parlait hier encore, mais ça n'enlève rien à la violence qui a été faite par Nissan. Ce matin, Nissan va supprimer 12 500 postes à travers le monde.
Oui, il faut arrêter la machine infernale, tâche difficile pour Nissan qui voit son bénéfice opérationnel reculer de 98% au premier trimestre de son exercice à peine 13,5 millions d'euros et qui doit employer la manière forte pour se restructurer. 12 500 postes seront donc supprimés sur 14 sites à travers le monde, soit 10% des effectifs. Mais Nissan est bien obligé d'en passer par là. La conjoncture a mis du temps à se dégrader et le groupe a du mal à y réagir sur toutes les zones géographiques, que ce soit le marché américain où il s'est lancé dans une chasse au volume qui a signifié des rabais conséquents et donc un impact majeur sur sa profitabilité, mais aussi l'Europe, où les ventes sont en très fort recul, 16% au premier trimestre. En réduisant la voilure, Nissan espère repartir de l'avant. Le groupe maintient ses prévisions pour l'année, mais on peut prévoir que la tâche sera extrêmement lourde et difficile et que ça risque peut-être d'empoisonner à nouveau les débats avec le partenaire dans l'alliance, à savoir Renault.
Renault, merci beaucoup. Antoine Larue-Gaudry, midi 8 sur BFM Business. À vous, Stéphanie Collot.
Merci Thomas.